En attendant que le PowerPoint se lance, je vais me présenter. Donc, Magali Dupont, je travaille à la direction départementale des territoires de la Savoie. Donc, je suis responsable de l'unité risque. Voilà. Donc, je vais vous dire deux, trois mots un peu pour vous donner quelques éléments de cadrage par rapport à cette question qui nous intéresse. Donc, les risques naturels comme éléments structurants de l'aménagement du territoire. Donc, tout d'abord, pour vous dire qu'effectivement, les élus locaux, donc, vous avez un rôle important dans la prévention des risques, puisqu'il s'agit, c'est pas une petite tâche, mais de concilier l'aménagement du territoire et la gestion des risques. Donc, on a vu par l'exposé de Stéphane avant que les risques naturels, c'est quand même un enjeu important du territoire, encore plus en Maurienne, sur un territoire de montagne, c'est d'autant plus prégnant. Donc c'est vraiment un enjeu important, déterminant pour l'avenir. Par exemple, je vous donne juste quelques chiffres par rapport à des chiffres sur le département de la Savoie. Donc 305 communes, on a à peu près 253 communes qui sont concernées par le risque inondation, 172 par le risque de mouvement de terrain, donc qui regroupe à la fois les problématiques de chute de blocs et les glissements de terrain, et puis 52 par le risque d'avalanche. Donc on voit que effectivement en Savoie, on est largement concerné par cette question-là. On a même plusieurs communes, notamment en Maurienne, qui sont concernées par plusieurs risques, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc quand on parle d'aménagement du territoire et de risques, qu'est-ce que ça veut dire et quels sont finalement les outils en notre possession pour essayer d'arriver à combiner tout ça? Donc on a principalement trois outils stratégiques, le SCOT, donc le schéma de cohérence territoriale, le PLU, le plan local d'urbanisme ou POS, et le PPRN, le plan de prévention des risques naturels. Donc on a essentiellement ces trois outils, donc qui vont être à compétence partagée entre l'État et les collectivités. Donc effectivement, le PPRN, bon, je le déclinerai un peu plus dans la suite de mon diaporama, qui est une compétence de l'État. Mais on voit bien que l'État a des moyens limités et qu'il n'est pas possible de mener des PPRN de front partout sur tout le territoire de la Savoie. Du coup, il y a des outils qui existent, cette fois à compétence des collectivités. Et c'est pour ça que c'est important aussi de prendre conscience de ça. Donc il y a des outils qui existent, qui sont le SCOT et le PLU. Donc effectivement, pour le SCOT, la prise en compte des risques est une obligation législative donc, qui est posée par l'article L121-1 du Code de l'urbanisme, donc, qui concerne également effectivement les PLU et les cartes communales, qui en fait balayent tous les documents d'urbanisme. Donc le SCOT, ce qui est intéressant, c'est qu'il est élaboré à une échelle supracommunale, c'est-à-dire qu'on va avoir une vision intercommunale, par exemple dans la gestion du risque. Donc c'est vraiment un avantage certain. Et puis le SCOT peut aussi permettre derrière à initier des réflexions qu'on va pouvoir décliner après au sein de chaque PLU dans chaque commune. Donc c'est le deuxième avantage du SCOT. Tout à l'heure on disait donc qu'il y a le SCOT Maurienne qui va démarrer sur le territoire. Donc effectivement c'est une très bonne chose. Et il faudra que ce SCOT puisse prendre en compte les risques naturels lors de son élaboration. À cet effet, il y a un guide très bien fait qui a été édité par le CEPRI. Donc c'est la prise en compte du risque d'inondation, mais qui peut aussi servir pour les autres risques dans les SCOT. Au niveau du PLU, donc on retrouve le même article L121-1 qui impose la prise en compte des risques dans les PLU, cartes communales. Et au moment de l'élaboration du PLU, il va y avoir une étape importante qui est l'étape du porté à connaissance de l'État, qui est vraiment un moment privilégié de l'information de la commune sur les risques naturels, puisque c'est à ce moment-là que la collectivité va avoir connaissance des différentes études de risques qui sont applicables au territoire. Donc ça peut être un PPRN, ça peut être un atlas des zones inondables, ça peut fait aussi diverses études de risque qui ont été faites sur le territoire. Et puis le PAC va être aussi un moment privilégié où l'État va peut-être préconiser ce que vous connaissez sous le nom de PIS, les plans d'annexation en ZEN, qui sont en fait des études spécifiques menées pour le PLU, pour la prise en compte des risques naturels. Donc enfin, le troisième outil à disposition, le PPRN, le plan de prévention des risques naturels. Donc le PPRN nécessite quand même la mise en place d'une procédure assez lourde, qui nécessite des moyens humains, techniques, des crédits et bien sûr du temps. Donc effectivement, les services de l'État ne peuvent pas mener de front l'ensemble des PPRN sur les 305 communes de Savoie. D'où l'importance de prendre en compte les risques naturels via les documents d'urbanisme que sont le SCOT et le PLU. Juste un chiffre, donc en Savoie, début 2014, il y avait 167 communes qui étaient couvertes par un PPRN approuvé, sachant qu'il y en a un certain nombre d'autres communes où des PPRN sont en cours d'élaboration et pas encore approuvés. Mais on voit que malgré tout, on a difficilement passé une bonne moitié des communes de Savoie qui sont couvertes par un PPR. Donc juste pour vous dire deux, trois mots par rapport au PPR, donc, un peu le cadre réglementaire, donc il a été instauré par la loi Barnier de 1995. C'est un document qui est prescrit par le préfet, qui est réalisé par l'État, donc en l'occurrence représenté par la DDT et le RTM. Le PPR est fait en association avec les collectivités. Et souvent, la partie, expertise technique sur les aléas est confiée à des bureaux d'études spécialisés. Les grands objectifs du PPRN, délimiter les zones exposées au risque, mais aussi les zones qui ne sont pas directement exposées au risque, mais où des aménagements pourraient aggraver les risques. Ensuite, définir les mesures relatives au mode de réalisation, utilisation, exploitation des aménagements. Et enfin, définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. Bon, ça c'est issu du texte sur les PPRN, mais ce qu'il faut bien retenir, c'est ce qu'il y a quelques lignes en rouge ensuite. Donc l'objectif, c'est vraiment d'assurer la sécurité des personnes et des biens. D'ailleurs, les personnes avant les biens. Délimiter les zones à risque et les préserver de l'urbanisation. Et enfin, essayer d'éviter l'aggravation des risques en mettant en œuvre des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. Rapidement, la procédure d'élaboration d'un PPRN. Donc la première étape, c'est la prescription avec désignation d'un service instructeur, définition des modalités de concertation avec la commune. Ensuite, vous avez toute une phase d'étude qui est en fait la phase la plus consommatrice de temps, on va dire, et donc qui va être essentiellement centrée sur la réalisation des études d'aléas, d'enjeux, vulnérabilité et zonage réglementaire. À chaque étape de réalisation du PPRN, il y a une concertation avec les élus qui est faite. Concertation avec la population, on essaye aussi de programmer de plus en plus des réunions publiques. Ensuite, on entre vraiment dans la phase un peu administrative d'élaboration du PPR, donc l'enquête administrative avec l'avis du conseil municipal, l'avis du centre régional de la protection forestière, la chambre d'agriculture, différentes institutions qui sont interrogées. Ensuite, il y a une grosse phase d'enquête publique, avec une enquête en général d'un mois, qui donne lieu à un rapport d'un commissaire enquêteur. Et enfin, l'approbation, donc, qui se fait par un arrêté du préfet. Et une fois approuvé, donc, le PPR vaut servitude d'utilité publique et il est annexé au PLU. Juste, c'est certainement un croquis que vous devez connaître au niveau de la méthodologie des études. Donc, quand on parle de risque, c'est bien le croisement d'un aléa. Donc, Stéphane nous a montré quelques photos tout à l'heure, mais il faut effectivement qu'il y ait aussi croisement avec un enjeu qui est une certaine vulnérabilité. Et effectivement, quand a le croisement de ces différents paramètres, on est en présence d'un risque. Donc le PPRN, un document qui réglemente l'urbanisation, qui est annexé donc, au document d'urbanisme une fois qu'il est approuvé, vos servitudes d'utilité publique, et par ce biais-là, donc, il s'impose à tous, donc, c'est-à-dire les riverains, les habitants, les collectivités, l'État aussi. Donc il concerne vraiment toutes les personnes qui habitent dans le périmètre réglementé ou qui ont des projets dans celui-ci. Et enfin, donc le PPRN, ce n'est pas un document qui est figé, c'est un document qui peut être révisé, notamment suite à la réalisation de travaux qui peuvent permettre de réduire l'aléa. Et ça va être l'objet de la petite présentation que va vous faire maintenant Pierre Macabiès, qui va vous montrer donc l'exemple de la révision du PPRN de Saint-Jean-de-Maurienne, spécifiquement sur deux secteurs, donc sur le secteur de l'Argent et de Rocheraie. Je vais lui laisser la parole maintenant.